fait. Chronique historique, hétéroclite et tout azimic. C'est au cœur d'un monde inconnu, étrange et majestueux, qu'une civilisation s'épanouissait selon des lois que personne n'osait comprendre. Des cités s'étendaient comme des énigmes vivantes, animées par des rites anciens et des croyances puissantes. Et les pas marquèrent la terre, les voix se turent, tandis que le fracas des armes éclata au milieu des traditions. Des vies se brisèrent, des cultures chancelèrent, et le choc des mondes laissa une empreinte irréversible. Les alliances se faisaient et se défaisaient, la confiance était rare, la ruse fourbe. Au milieu de ce tumulte, l'ombre d'une ambition immense plana, guidant chaque mouvement, chaque décision, chaque affrontement. Hernán Cortés, voici son histoire. Hernán Cortés voit le jour en 1485 dans la petite ville de Medellín, en Estramadour. Il naît dans une famille de petite noblesse, fière mais pauvre, qui ne peut offrir à son enfant ni fortune ni rang véritable, seulement un nom et un espoir, celui de s'élever. Ses parents l'envoient à l'université de Salamanque, prestigieuse institution où il est censé étudier le droit. Mais Hernán Cortés n'est pas un étudiant discipliné. Le monde des livres l'ennuie. La perspective d'une carrière bureaucratique ne le séduit guère. C'est un jeune homme vif, ambitieux, impatient. À 19 ans, il prend sa décision. Il part. En 1504, il embarque pour l'île d'Hispaniola, aujourd'hui la République dominicaine et Haïti. Il exerce comme notaire une position administrative qui lui donne un premier aperçu du fonctionnement des colonies espagnoles. Mais surtout, dans les tavernes et les campements militaires, il écoute. Il écoute les récits d'explorateurs, d'aventuriers, de soldats de fortune. Il comprend rapidement que dans ce monde nouveau, tout est possible pour qui ose tout. Après ses premiers pas à Hispaniola, il rejoint en 1511 l'expédition de Diego Velázquez pour la conquête de Cuba. Là, il se révèle rapidement courageux au combat, habile dans la négociation avec les villages autochtones, capable d'organiser ses hommes et de gérer des situations complexes. Il participe à la pacification des régions récalcitrantes, parfois par la force, parfois par la persuasion, et se distingue par son audace et son sens stratégique. C'est dans ce contexte qu'il se lance vers des horizons plus vastes. Avant de partir, il épouse Catalina Juárez Marquiada. Pendant que Cortés était absent, Catalina est restée à Cuba avec leur fille, Maria Cortés Juárez, née peu de temps après. Elle a probablement vécu à Santiago de Cuba où Cortés avait des propriétés et des intérêts. En 1522, Catalina a rejoint son mari à Mexico, mais elle est décédée peu après son arrivée, probablement de la variole, mais je m'éloigne trop vite. En février 1519, Cortés quitte Cuba, embarquant pour ce qui sera l'une des expéditions les plus ambitieuses du XVIe siècle. Officiellement, la flotte est organisée par Diego Velázquez, gouverneur de Cuba, qui espérait étendre son influence sur les territoires inconnus du continent. Mais Velázquez se ravise à la dernière minute, doutant de la loyauté de Cortés et tentant de retirer son autorisation. L'audace de Cortés ne connaît pas de limite. Il décide de partir malgré l'interdiction, défiant l'autorité de son ancien protecteur. La flotte est modeste mais suffisante pour ses ambitions. 11 navires transportant environ 500 hommes, parmi lesquels des soldats aguerris, arquebusiers, cavaliers, charpentiers et marins, ainsi que quelques serviteurs et esclaves. À bord se trouvent des hommes qui deviendront des figures majeures de la conquête. Pedro del Alvarado, lieutenant impétueux et fidèle, Gonzalo de Sandoval, officier loyal et stratège, et Bernal Diaz del Castillo, futur chroniqueur de cette incroyable aventure. C'est au moment du départ que Cortés affirme son autorité et devient capitaine général de l'expédition. Officiellement, Velázquez avait prévu un commandant, mais en se présentant à la flotte et en s'appuyant sur sa capacité à convaincre l'équipage, Cortés se place comme leader incontesté. Il utilise un mélange de charisme, promesses de richesse, essence de la hiérarchie militaire pour obtenir la loyauté des capitaines et marins. La traversée, qui dure environ 2 mois, longe les côtes caraïbes avec escale à Cozumel et le long de la péninsule du Yucatán, pour le ravitaillement et les premiers contacts diplomatiques avec les populations locales. Cortés y montre ses qualités. Il impose la discipline, planifie les escales, négocie ou fait usage de la force selon les circonstances et prépare ses hommes à la confrontation avec l'inconnu. À son arrivée, il fonde Veracruz, première ville européenne permanente sur la côte mexicaine, symbole de sa prise de pouvoir et de son indépendance vis-à-vis de Velázquez. C'est aussi un acte politique. En s'y déclarant capitaine général, Cortés se place directement sous l'autorité du roi d'Espagne, contournant Velázquez et consolidant sa position stratégique. Rapidement, il établit les alliances avec les peuples autochtones, en particulier les Totonacs et les Tlaxcaltèques, ennemis jurés des Aztèques. Il s'appuie sur ses alliés pour renforcer son armée, composée de quelques centaines d'Espagnols et de dizaines de milliers de guerriers indigènes, et pour se préparer à la marche vers la capitale aztèque. En novembre 1519, Cortés entre dans cette ville légendaire, construite sur les eaux et traversée de canaux, stupéfiant ses hommes par sa grandeur et sa beauté. L'empereur, Moctezuma II, accueille Cortés avec prudence et peut-être crainte, certains Aztèques croyant à la venue d'un dieu étranger. Mais Cortés ne tarde pas à le prendre en otage, imposant son contrôle et bouleversant l'équilibre politique de la ville. Cortés a donc la main mise sur la capitale aztèque Tenochtitlan. Mais la situation dégénère avec le massacre du Temple Mayor en mai 1520, lorsque Cortés est temporairement absent. Cortés avait reçu des nouvelles selon laquelle Pénfilo, un conquistador espagnol, avait été envoyé par le gouverneur de Cuba, Diego de Velázquez, pour l'arrêter et prendre le contrôle de l'expédition au Mexique. Navajez avait débarqué à Veracruz avec une grande armée et Cortés devait aller l'affronter pour protéger ses intérêts et maintenir son contrôle sur la conquête du Mexique. Cortés a donc quitté Tenochtitlan avec une partie de ses troupes pour aller affronter Navajez, laissant Alvarado en charge de la ville. Il a réussi à vaincre Navajez et à rallier une grande partie de ses troupes à sa cause, mais pendant son absence, la situation à Tenochtitlan s'était détériorée. Les hommes de Pedro de Alvarado, son lieutenant, assistent à une cérémonie religieuse aztèque en l'honneur de Huitzilopochtli, le dieu de la guerre et du soleil, qui comporte des sacrifices humains.
¡Bucanón! Lunatic. Tuxale. But nice a wall. Utial villa lamo. Utial usat malota pluma. Meldone. Tanet casut. Pavel. Yete la kikere. Kakasisi pluma. Tujo ki bak du nord.
Les hommes de Pedro de Alvarado, craignant un soulèvement et interprétant à tort ce rituel en l'honneur de Huitzilopochtli comme une menace directe, Alvarado ordonne l'attaque. Plusieurs dizaines, voire centaines de prêtres et nobles sont massacrés. Cet acte provoque l'indignation de la population et déclenche le soulèvement général des habitants de Tenochtitlan. Face à cette révolte massive, Cortés et ses hommes décident de fuir la ville pendant la nuit, ce qui donnera naissance à ce que l'histoire appelle la Noche Triste, la nuit triste. Le 30 juin 1520, les Espagnols avancent précautionneusement sur les ponts étroits et les canaux qui relient les différentes parties de la ville, espérant échapper aux assauts des guerriers aztèques. Mais la fuite tourne au désastre. De nombreux soldats et porteurs tombent dans les eaux, étouffés sous le poids de l'or et des objets pillés, tandis que les Aztèques les attaquent depuis les rives et les embarcations. La nuit triste marque un tournant dans la conquête. Cortés et ses hommes survivants se réfugient chez les Tlaxcaltèques, où ils se réorganisent et préparent leur revanche. Avec l'aide de leurs alliés indigènes et la propagation de la variole qui décime la population aztèque, Cortés lance un siège de plusieurs mois contre Tenochtitlan. La ville tombe le 13 août 1521 et Cortés fonde Mexico, la nouvelle capitale de la Nouvelle-Espagne. Hernán Cortés devient alors un personnage central de l'Empire espagnol en Amérique. Il envoie ses célèbres cartas de relación à Charles Quint, relatant la conquête et justifiant ses actions, mélange de propagande, de récits militaires et de stratégies politiques. Entre 1521 et 1524, Hernán Cortés a consolidé sa conquête de l'Empire aztèque en reconstruisant Mexico, qu'il a renommé et en restaurant une partie de l'organisation indienne. Il a établi un nouveau système de gouvernement avec des fonctionnaires espagnols et des chefs indigènes, et a distribué des terres aux conquistadors. Il a également envoyé des expéditions pour explorer et conquérir les régions voisines, notamment la région de Oaxaca et la côte pacifique du Mexique. En 1522, il a été nommé gouverneur et capitaine général de la Nouvelle-Espagne par le roi Charles Quint, ce qui a consolidé son pouvoir et son influence dans la région. Pendant cette période, il a également lancé la construction de la nouvelle ville de Mexico, qui devait devenir la capitale de la Nouvelle-Espagne. Entre 1524 et 1526, il lance une expédition pour réprimer une rébellion menée par Cristobal de Olid, un de ses anciens lieutenants. Olid avait été envoyé au Honduras pour établir une colonie espagnole, mais il s'était rebellé contre Cortés, influencé par le gouverneur de Cuba, Diego Velázquez. Cortés, parti de Mexico en octobre 1524 avec une armée de soldats espagnols et d'alliés indigènes pour réprimer la rébellion. Le voyage fut difficile, marqué par des maladies, des attaques d'ennemis et des conditions climatiques difficiles. Cortés arriva au Honduras en 1525 et apprit que Olid avait été tué par ses propres hommes ou par une expédition menée par Francisco de la Casas, un cousin de Cortés. Son expédition au Honduras fut un échec en termes de résultats concrets, mais elle permit de rétablir son autorité sur la région. Cependant, elle affaiblit également Cortés et permit à ses ennemis de prendre le pouvoir au Mexique. Cette expédition marque un tournant dans la vie de Cortés. Il commença à perdre de son influence et de son pouvoir dans la Nouvelle-Espagne. Après avoir réprimé la rébellion de Cristobal de Olid au Honduras, il est retourné à Mexico en 1526, où il a été accueilli en héros. Cependant, il a rapidement commencé à avoir des problèmes avec la couronne espagnole, qui a envoyé des fonctionnaires pour enquêter sur ses actions et limiter son pouvoir. En 1527, la première Audiencia, un conseil de fonctionnaires espagnols, est arrivée à Mexico pour gouverner la Nouvelle-Espagne et limiter le pouvoir de Cortés. Cette arrivée a marqué le début de la fin de l'influence de celui-ci dans la colonie, ce qui l'a poussé à retourner en Espagne pour plaider sa cause auprès du roi Charles Quint. Il part pour l'Espagne en 1528, laissant derrière lui une situation politique complexe et une colonie en plein développement. Pendant son retour en Espagne, il plaide sa cause auprès du roi pour obtenir des titres et des terres. Il est reçu avec honneur et réussit à obtenir le titre de marquis de la vallée d'Oaxaca, ainsi que des terres et des droits sur les mines d'or et d'argent de la région. Cortés a également utilisé cette occasion pour se défendre contre les accusations de malversation et de cruauté envers les indigènes qui avaient été portées contre lui. Il a présenté ses arguments et a réussi à convaincre le roi de sa loyauté et de son dévouement à la couronne espagnole. En 1522, il avait déjà été nommé gouverneur et capitaine général de Nouvelle-Espagne par le roi Charles Quint, ce qui lui avait donné un grand pouvoir et une grande influence dans la colonie. Cependant, son retour en Espagne en 1528 a marqué un tournant dans sa carrière, car il a dû faire face à des critiques et des accusations qui ont menacé de lui faire perdre son pouvoir et ses titres. C'est pendant ce séjour en Espagne qu'il épouse Juana de Zúñiga, une noble espagnole, en 1529. Ce mariage a renforcé les liens de Cortés avec la noblesse espagnole et lui a permis de consolider son pouvoir et son influence. Il eut plusieurs enfants. Malgré ses défis, il a réussi à maintenir sa position et à obtenir de nouveaux titres et privilèges. Il retourne en Nouvelle-Espagne en 1530, prêt à reprendre son rôle de leader et à poursuivre son œuvre de conquête et de colonisation. Il y est accueilli avec une certaine hostilité par les autorités locales. Il a rapidement eu des conflits avec la première Audiencia qui avait été établie pour gouverner la colonie et limiter son pouvoir. Malgré ses difficultés, il a continué à explorer et à conquérir de nouvelles terres. En 1532-1533, il mène une expédition pour explorer la côte pacifique du Mexique et découvre de nouvelles terres. Cette expédition a été suivie d'une autre en 1535, cette fois-ci en Californie, mais elle a échoué en raison de difficultés logistiques et de la résistance des indigènes. En 1535, Cortés a également eu des conflits avec le vice-roi Antonio de Mendoza, qui avait été nommé pour gouverner la Nouvelle-Espagne et limiter son pouvoir. Ces conflits ont marqué le début de la fin de l'influence de Cortés dans la colonie, et il a commencé à se retirer de la vie politique pour se concentrer sur ses affaires personnelles. En 1540, il retourne en Espagne pour plaider une nouvelle fois sa cause auprès du roi Charles Quint. En 1541, il participe à l'expédition contre le pirate Barberousse en Algérie, mais il ne joue pas un rôle important dans la campagne. Après cela, il s'installe à Séville, où il commence à écrire ses mémoires et à gérer ses affaires. Cette période est également marquée par des problèmes de santé pour Cortés, notamment de la pleurésie qui va l'affaiblir et contribuer à sa mort. En 1546, il a rédigé son testament, léguant ses biens et titres à ses héritiers. Ses héritiers sont son fils, Martin, sa fille Maria et sa femme Juana de Zúñiga. Martin, son fils, est de Malinque et a hérité du titre de marquis de la vallée d'Oaxaca et d'une grande partie des propriétés de son père au Mexique. Maria, sa fille, née de sa première épouse, a hérité d'une partie des propriétés de son père en Espagne. Juana de Zúñiga, son épouse quant à elle, a hérité d'une partie des propriétés de son mari en Espagne et a également reçu une pension du roi. Ses descendants ont continué à jouer un rôle important dans l'histoire du Mexique et de l'Espagne et ont hérité de titres et de propriétés, notamment le marquisat de la vallée de Oaxaca, des mines d'or et d'argent au Mexique, des propriétés en Espagne et des titres de noblesse. Ils ont ainsi bénéficié d'une grande fortune en or, en argent et en autres biens. Cela contribuera à établir la famille Cortés comme l'une des plus puissantes et des plus influentes de l'Espagne et du Mexique. Hernán Cortés décède le 2 décembre 1547 à Castilleja de la Cuesta, près de Séville, à l'âge de 62 ans. Après son décès, il est inhumé dans l'église de San Francisco à Séville. Cependant, en 1566, ses restes ont été transférés au Mexique à la demande de son fils Martin et ont été enterrés dans l'église de San Hipólito à Mexico. Au fil des ans, la mémoire de Cortés a été l'objet de débats et de controverses, certains le considérant comme un héros et un conquérant, tandis que les autres le voient comme un envahisseur et un destructeur de la culture indigène. Aujourd'hui, il est considéré comme une figure complexe et controversée de l'histoire qui a joué un rôle important dans la conquête du Mexique et la création de la Nouvelle-Espagne. Il est souvent représenté dans l'art et la littérature comme un symbole de la conquête espagnole et de la rencontre entre les cultures européennes et indigènes. En 1992, le gouvernement mexicain a décidé de transférer les restes de Cortés dans un lieu plus digne, mais la décision a été contestée par certains groupes indigènes et historiens qui considéraient que Cortés ne méritait pas un tel honneur. Aujourd'hui, les restes de Cortés sont conservés dans un lieu secret et son héritage continue de faire l'objet de débats et de réflexions sur l'histoire et la culture du Mexique. En conclusion, la vie de Hernán Cortés est marquée par une série de conquêtes et de controverses. Il est connu pour avoir conquis l'Empire aztèque en 1521, ce qui a permis à l'Espagne de s'établir au Mexique et de créer la Nouvelle-Espagne. Cependant, ses actions ont également entraîné la destruction de la culture aztèque et la mort de milliers d'indigènes. Cortés était un homme complexe, à la fois courageux et cruel, qui a su utiliser ses talents de stratège et de diplomate pour atteindre ses objectifs. Il a également été un pionnier dans la colonisation du Nouveau Monde et a joué un rôle important dans l'histoire de l'Amérique latine. Malgré ses réalisations, Cortés est également considéré comme un symbole de l'oppression coloniale et de la destruction des cultures indigènes. Son héritage est donc controversé et continue de faire l'objet de débats parmi les historiens et le grand public.
La ville de Veracruz, où débarqua Hernán Cortés en 1519, fut sans aucun doute la scène originelle de tous les crimes commis par les Européens. Ceux pour s'accaparer des richesses qu'ils croyaient infinies. À partir de cette date, ce ne sont plus seulement des marchandises qui s'échangent à l'échelle de la Terre, mais des groupes humains traités comme tels. Des fils invisibles relient dorénavant entre eux tous les hommes et d'autres manières de voir le monde. Dans certains cas, comme celui du Mexique, il n'en reste plus que des traces imperceptibles.
On trouve ici, dans la maison de Cortés, des vestiges qui sont pour moi parmi les plus importants, la Piedra Mucara. Ce sont des incrustations de corail qu'on voit ici, et qui servait à faire des sortes de briques.
Une espèce de, digamos, tabiques, lo que ahora conocemos como tabiques. Y bueno, los encargados de obtenerlas.
Ce sont les premiers esclaves africains qui furent chargés de leur extraction. Non loin d'ici, ils plongeaient dans la mer et coupaient pour sortir ces pièces de corail, qu'on laissait ensuite sécher au soleil pour qu'elles durcissent. On les sortait vivantes, elles mouraient, puis durcissaient. Cette technique a permis de construire les premiers bâtiments et elle est si durable que ça a perduré jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, elle est symbolique car elle parle d'un travail pénible. Ça devait être très difficile de plonger, extraire, couper. Parce que couper le corail et le sortir de l'eau était tout un processus difficile. Moi, ça m'émeut particulièrement de retrouver ça. C'est un vestige qui parle de ce qui a été et j'ai l'impression qu'on pourrait presque retrouver. Il doit y avoir des empreintes digitales coincées là, celles de la personne qui a fait ce dur travail de sortir le corail, de le sécher et qu'il a finalement placé ici. Ça montre que cette personne s'est retrouvée là. C'est un symbole que peu de gens connaissent.
stones, carried them to the flatlands. That along the way, they built up with their bare hands. We still can't do today, and I know she's living there. She loves me till this day. Remember when or how I lost my way.
En 2019, Federico Acosta, descendant de Moctezuma II, et Asciano Pignatelli, de la famille d'Hernán Cortés, se sont rencontrés au même endroit que leur ancêtre il y a 500 ans, à l'angle des rues José María Pino Suárez et República del El Salvador, dans le quartier centre de Mexico.
Federico Acosta, descendiente de Moctezuma II, y Ascanio Pignatelli, de la familia de Hernán Cortés, se encontraron en el mismo lugar que sus ancestros hace 500 años en la esquina de José María Pino Suárez y República de El Salvador, en la colonia centro de la Ciudad de México, representando el abrazo que sus antepasados se dieron al conocerse. El encuentro se realizó como parte de un documental realizado por Miguel Gliasson.
Esta semana fue una de las mejores de mi vida. La cultura, la gente, la hospitalidad, la cocina también, todo fue increíble, maravillosa. Y ahorita me siento muy conectado al México. Soy muy feliz y muy honrado de ser aquí con vosotros. Y gracias, gracias del corazón, gracias.
Independientemente de lo que pasó en ese momento, fue la fusión de dos culturas, la europea y la nuestra. Y el resultado somos todos nosotros, porque todos nosotros, en la gran mayoría de este país, tenemos sangre española y sangre mexicana. Yo represento a mi familia, que es los descendientes, somos descendientes de Moctezuma II, y somos una gran familia hoy en día, junto con los españoles. Todos estamos juntos, porque nosotros somos el resultado, todos nosotros, ¿no? Y es un país increíble, México. Lo único que se requiere en este momento es que reencontremos nuestra identidad, porque si nos creyéramos lo que nosotros éramos antes de la conquista, que más bien fue una invasión, seríamos una gran nación, porque podríamos emular lo que éramos antes de ese momento. Y somos un gran país. Entonces, si quitamos un poco los vicios o las malas costumbres que tenemos y resaltamos lo bueno, estamos destinados a ser una gran nación, una superpotencia.
México siempre ha sido y siempre será una fusión de varias culturas. Tenemos también árabes, españolas, de casi de todo mundo. Aquí se conjuga todas las culturas. Entonces, pues pedir perdón yo creo que está de más, ¿no? Ya pasó todo, ya se pidió perdón, ya se otorgó anteriormente.
No, definitivamente no. Ha pasado mucho tiempo, son circunstancias distintas. Bueno, la misma historia se encarga de arreglar las cosas. Y creo que no hay lugar a una petición de disculpa. No tiene sentido.
Thank you. been dancing across the water with his galleons and guns, looking for the new world and the palace in the sun. On the shore lay Montezuma with his coca leaves and pearls. In his halls he often wandered with the secrets of the world. And his subjects gathered round him like the leaves around the tree, in their clothes of many colors, for the angry gods to see. And the women all were beautiful, and the men stood straight and strong. He offered life and sacrifice so that others could go on. Hate was just a legend, and war was never known. People worked together, and they lifted many stones, and they carried them to the flatland, but they died along the way, and they built up with their bare hands what we still can't do today. And I know she's living there, and she loves me to this day. I still can't remember when or how I lost my way. He came dancing across the water, Cortez, Cortez, what a killer. We'll be right back.
faits des faits. Chronique historique, hétéroclite et tout azimique.